Bonjour, je m'appelle Marie-Charlotte et je vais donc modérer cette table ronde. C'est suite à la sortie de ce numéro de La Grande Oreille sur la fantaisie. Je vais souffler. En discutant avec Lionette Arnaudin, qui en est la big patronne, nous avons eu l'idée de mettre en place cette table ronde sur la réutilisation des contes. Alors on verra que ce n'est peut-être pas que des contes dans la fantaisie. Je viens de courir, voilà. Alors, je dis ce ne sont pas que des contes parce que le terme était pratique pour moi de dire réutilisation des contes, mais en fait c'est un terme incomplet. J'ai le sentiment, alors vous me direz les uns et les autres, mais j'ai le sentiment à première vue que la fantaisie puise dans tout le domaine de la tradition, c'est-à-dire aussi bien dans tout ce qui est en tout cas fantastique et merveilleux, aussi bien le conte merveilleux, aussi bien le conte ou les personnages fantastiques, issus plus des mémoras que des contes populaires. Alors le mémora, en deux mots, qui aujourd'hui est assimilé au conte, est en fait une histoire qu'on raconte à la veillée. Donc la veillée qui bien sûr n'est pas un lieu de spectacle mais un lieu d'économie, c'est-à-dire on se rassemble dès que la lumière tombe, et ce depuis le Moyen-Âge, pour pouvoir travailler ensemble et surtout économiser le feu, le bois et la lumière, l'huile, la bougie, voilà. Et à l'occasion, comme on est en train de filer ou comme on est en train de d'éplucher les châtaignes, etc., eh bien à l'occasion, on commence à raconter des histoires. Dans ces histoires, il y a des conteurs, qui sont des gens qui vont de ferme en ferme, ou alors tout simplement des dames, des nourrices qui connaissent des histoires. Et puis il y a aussi ces mémoras. Alors ces mémoras, c'est, ben, dites donc, Madame Machin à côté, vous savez qu'elle a vu un fantôme. Ah bon, mais si, mais on vous dit, mais la maison est hantée depuis longtemps, etc. Et ce mémora qui au début est localisé, va petit à petit voyager et va devenir une histoire de fantôme tout à fait ordinaire, etc. Voilà, un exemple. Il y en a d'autres. Donc, des personnages ou des situations issues de ces mémoras, également issues des légendes. C'est la légende est un conte, un récit localisé. C'est-à-dire, ça s'est passé ici, ce lieu s'appelle la Pierre du Diable, il a une histoire, il est localisé, ce n'est donc plus un conte, mais une légende. Le conte n'est ni localisé dans le temps, ni localisé dans l'espace, a priori. Donc on pourrait penser que le fait comme ça d'aller puiser des personnages ou des situations dans des récits précédents soit une solution de facilité, mais en fait nous verrons qu'il n'en est rien, en tout cas pour les deux auteurs qui sont à côté de moi, et c'est par vous que je vais commencer, les filles. Donc Anne Fakouri, on peut lire dans votre biographie donc, que vous êtes passionnée par Lewis Carroll et les Chevaliers de la Table Ronde, mythe auquel vous avez consacré votre mémoire, puisqu'en fait vous disposez d'une formation tout à fait classique au départ. Vous êtes d'ailleurs professeur de français toujours, actuellement, je vais mettre mes lunettes. Vous publiez votre premier roman en direction des jeunes, Le Clair Voyage, chez La Talente en 2008. C'est un diptyque dont le deuxième volet remportera le Grand Prix de l'Imaginaire, c'est La Brume des Jours. Les deux. Alors, pour le diptyque, pardon, en 2011, Narcogénèse, là, vous bougez un petit peu vers un fantastique encore plus fort avec un thriller où se côtoient donc des personnages contemporains, des sorcières, un très très méchant marchand de sable. Voilà. Clara, l'héroïne donc du Clair Voyage, qui a 12 ans, va découvrir que les fées existent et qu'elle possède le don de les entendre. Et j'ai noté un passage qui me plaît beaucoup, qui est très caractéristique. Tu as des yeux sans fond, Clara. Tu as les plus beaux yeux que j'ai jamais vus. Ma marraine appelle ça les yeux sans aventure. Ce sont des yeux très rares. Ce sont des yeux de clairvoyage. Clairvoyance, rectifia Clara malgré elle. Le bon mot est clairvoyance. Clairvoyage. Tu as des yeux prêts à observer les plus belles légendes. Voilà. En lisant ces lignes-là, moi, j'étais de l'autre côté du miroir, je voyais un petit dire à Alice, Non. Ou lui dire je suis le maître des mots, je fais ce que les mots. Et là, effectivement, on peut dire que. Voilà, je comprends que tu sois passionné par Lewis Carroll. Ça se voit. Voilà. Vos faits sont proches de la tradition et des croyances. C'est la clairvoyance. Maintenant, je fais les croyages. C'est un imaginaire assez surprenant. Donc, d'où vous est venu, première question, et la même sera posée à Nathalie, d'où vous est venu le désir de puiser dans la tradition et quelles sont à la fois vos sources d'inspiration ou vos sources de documentation? Voilà, comment ça se passe? Comment on choisit ça?
Alors, à l'origine, évidemment, c'est tout à fait personnel et on est tout à fait dans cette idée de mémoire, en tout cas pour le clair voyage, puisqu'il y a une tradition qu'on entend,
un peu juste,
là on entend mieux. Oui. Il y a une tradition orale dans ma famille où on racontait des contes, on transformait les contes, on transformait les proverbes, on a inventé de nouvelles histoires. La base du clairvoyage, c'est toutes ces histoires que j'ai entendues petites qui mélangeaient à la fois, bien sûr, puis traditionnelles et des histoires plus personnelles, comme ma grand-mère qui avait inventé une prière à la lune quand la lune était en poisson, qu'on devait réciter à la lune et le lendemain on trouvait des choses merveilleuses dans le jardin, des petites fleurs en papier, des pièces de 10 francs. Des bonbons, des violettes en sucre, etc. Donc déjà, la base, c'est ça. C'est vraiment un livre très, très personnel pour ça, parce que j'ai toujours aimé ces histoires qu'on me racontait petites et qui allaient donc du conte, des histoires personnelles, voire même des histoires vécues, puisque j'ai passé mon enfance au pied de mon grand-père qui me racontait la captivité, entre autres. Donc voilà. Après, j'ai découvert Pierre Dubois dans Spirou, à l'époque, où il faisait avec Haussmann le grand fabulaire du petit peuple et j'ai adoré cette conception des fées qui était finalement très cruelle, qui était en dehors de toute tradition évidemment chrétienne, qui a les origines des fées, donc très païennes, non régies par le bien ou le mal. Et donc quand j'ai écrit Claire Voyage et que j'ai utilisé ces fées que j'adorais, qui correspondaient aussi à une tradition familiale puisque ma mère qui était tout à fait saine d'esprit avait un lutin dans sa poche. et voilà, donc cette tradition des fées, j'ai évidemment puisé dans Pierre Dubois, la grande discipline des fées, des elfes, pour m'éloigner aussi de cette mode actuelle des fées à paillettes, un petit peu particulière, un petit peu rose. Donc voilà, donc la documentation, non, la documentation était déjà là. Après, j'ai mélangé Le songe d'une nuit d'été, qui reprend évidemment les personnages de fées, des contes que j'ai pu aimer, que j'ai pu lire. Pour La brume des jours, je me souviens avoir été impressionnée par un conte où une jeune fille se retrouve dans un autre pays et doit, pour créer l'hiver, secouer des édredons par une fenêtre, ça fait partie de son initiation. Donc ça, je l'ai repris dans La brume des jours, mais Clara ne secoue pas des édredons, elle crée des mots, elle garde des livres. C'est un petit peu différent. Donc la documentation était là depuis l'enfance, ce qui évidemment participe grandement au principe de fantaisie, puisque la fantaisie reprend ce désir initial de replonger, à mon sens en tout cas, dans le conte, et est par ce fait une littérature très affective. On retrouve ce plaisir de la veillée, mais aussi ce plaisir de l'enfance d'écouter des contes, puisque c'est le premier lien qu'on a avec la littérature, la parole, les parents, les nourrices, les grands-parents qui lisent des contes. Donc le clairvoyage a vraiment été construit sur ces paroles, sur ces légendes d'inconscient collectif, mais aussi une légende familiale où dans ma famille, tout devenait légende. Nos histoires personnelles, notre histoire familiale, ce qu'on entendait, ce qu'on vit, tout.
Ça veut dire qu'on est dans la pure tradition du conte, en fait, et dans sa déformation tout à fait normale, etc. Avant de vous poser, Nicolas, une question, je m'aperçois que j'ai manqué à tous mes devoirs, le fait d'avoir couru et d'être venu, que je n'ai pas présenté les personnes qui étaient à cette table, et donc je vais tout de suite le faire. Vous avez tout à fait compris, donc nous avions Anne Fakouri, que je viens de présenter, Eunice Martin, qui est très très intimidée parce qu'elle remplace au pied levé Jacques Baudou, qui a eu un petit problème et qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais j'ai eu vent tout à fait par hasard de votre thèse de doctorat sur la fantaisie. Et comme j'ai vu le plan, j'ai vu qu'à l'intérieur, il y avait un chapitre conte et fantaisie. Et donc, immédiatement, je lui ai demandé de venir et elle me dit, je ne sais pas ce que je vais dire. Vous avez tout à fait trouvé des choses à dire. Je n'ai aucun... Mais c'est grâce à toi, Caroline, en fait. C'est toi qui m'as envoyé le mail. Je ne l'avais pas vu là-bas. Voilà, je vais te dénoncer. C'est grâce à Caroline Simon, qui dirige la petite bibliothèque ronde, que j'ai eu ce mail. Nicolas Nedelec, qui appartient donc à l'équipe de La Grande Oreille et qui a dirigé ce numéro sur la fantaisie conte d'outre-monde et qui va d'ailleurs nous en parler tout à l'heure et qui est le savant en la matière. Nathalie Do, qui est à la fois auteur, éditeur et plein d'autres belles choses dont elle vous parlera. Donc, avant de passer à Nathalie, Nicolas, sur ce que vient de dire Anne, est-ce qu'en travaillant sur... Puisque là, on est vraiment dans la tradition du conte. Le conte, ça n'a jamais été quelque chose de figé. C'est quelque chose qui évolue et qui doit continuer à vivre en évoluant, en changeant. Voilà. Donc, est-ce que dans les auteurs de fantasy sur lesquels vous avez travaillé dans ce rapport conte et fantasy et littérature, est-ce que vous avez retrouvé, d'une part, des histoires similaires, c'est-à-dire des gens qui étaient vraiment dans la, entre guillemets, sincérité du conte et qui ne pouvaient pas faire autrement, ce qui est le cas d'Anne et de Nathalie, je le sais, ou alors est-ce qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus légères? Comment s'est construit ce numéro?
Alors, les textes qui sont présents dans le numéro sont souvent issus de textes plus longs, de romans. Et c'est vrai que du coup, à cause de la longueur du roman, on ne trouve pas d'entrée dans un conte comme on la trouve dans le conte réécrit.
Il faut mieux le prendre à la main peut-être.
Là, comme on a voulu faire découvrir avec ce numéro ce qu'est la fantaisie, notre but initial, j'espère qu'il pourra intéresser d'autres personnes, mais notre but initial, c'était de faire découvrir la fantaisie à des conteurs, à des personnes qui connaissent déjà très bien le conte, et de leur montrer, de leur donner des pistes de compréhension pour leur montrer une utilisation qu'ils n'ont pas toujours et qui est un peu et une perception qu'ils n'ont pas non plus parce qu'ils sont un peu influencés parfois par une certaine image négative de la fantaisie aujourd'hui, de leur montrer ce qui existe et ce que font d'autres personnes que les conteurs avec
le conte, le matériau, avec le même matériau. Conte.
Donc on n'a pas directement là des textes courts type conte qui sont directement issus de contes de la tradition orale, par exemple. Néanmoins, on a des textes inédits dans ce numéro et on trouve un texte d'un auteur qui s'appelle Franck Féric, qui est là, qui est un ouais. Excellent auteur, qui nous a fait d'ailleurs un très beau texte dans le numéro précédent, où il se sert de la légende arthurienne. Donc on trouve pas nécessairement les contes, on trouve aussi une influence très importante des mythes et des légendes, et de toute façon c'est notre triptyque conte, mythe, légende dans cette revue. Donc une présence des mythes très importante. Pourquoi? Sans doute pour la longueur du roman, et puis l'aspect sacré, peut-être qu'on
oui, va en parler du mythe, voilà, après. Oui.
Qui habite ces histoires, et qui leur donne quelque chose de supplémentaire, si je peux dire comme ça, par rapport au conte. Le conte, c'est une forme courte, il y a un côté archétypal, il y a des situations très particulières. Donc, au-delà du conte, dans ces livres de fantasy qu'on a retrouvés, qu'on a repris, dont on a publié des extraits qui nous ont intéressés, on a d'autres choses, la dimension, comme je le disais, la dimension sacrée, la longueur, la création d'un monde. Ce qui vient du conte, ce sont plutôt des éléments, par exemple, des ces êtres, tout simplement tout le bestiaire qu'on trouve dans les contes, fées, lutins, magiciens, et la présence de la magie très importante. Oui, alors ça me fait penser encore à autre chose. On s'est intéressé au travail d'une éditrice américaine qui s'appelle Terry Winding, et qui, elle, a fait un travail fabuleux sur des adaptations de contes qu'elle a demandé à des auteurs qui, a priori, ne voulaient pas écrire sur les contes. Et on a un extrait, on a un conte qui est issu de ce travail-là, mais on est allé voir chez les anglo-saxons, puisque, dans les années 90, elle était à l'initiative de ce projet de réécriture de contes, et on a un aspect historique dans ce numéro, donc on est allé vers elle, puisqu'elle était à l'initiation de ce mouvement-là.
Alors, on retrouve effectivement des personnages, des éléments, mais est-ce qu'on retrouve aussi des schémas narratifs? Je pense par exemple au conte d'initiation, voilà, où on va avoir des obstacles, en fait, qui est un conte très très particulier. Je pense que dans la fantasy, on a aussi ce type de récit.
Alors ça, c'est une constante. Hein. On a dans la fantasy un héros auquel le lecteur est invité à s'identifier et qui franchit tous les obstacles. Effectivement, comme dans le conte, là c'est très clair, l'analogie est très 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 limpide.
D'accord, eh bien, nous allons maintenant passer le micro à Nathalie Do. Alors Nathalie, vous commencez par des nouvelles en 1999 et vous deviendrez vous-même anthologiste et vous deviendrez également anthologiste, je vais faire des copier-coller malheureux, d'accord ? En 2003 avec l'Esprit des Bardes, où vous invitez une vingtaine d'auteurs à décliner les mythes celtes.
Hors corpus arthurien.
Ouais. Bah, tu vas en parler. En 2006, votre nouvelle « Le violon de la fée » publiée dans la revue Férise est récompensée par le prix Merlin. Deux ans plus tard, votre recueil « Les contes myalgiques » qui sera après donc en deux tomes, « Les terres qui rêvent » chez Griffe d'encre est primé aux Imaginales. Et on a derrière un volume 2 qui est un petit peu peut-être plus sombre, avec des contes un peu plus noirs, et qui d'ailleurs porte le titre « Les atouts du diable ». Et puis, bien entendu, ensuite, nous aurons « Les débris du chaudron », qui là, pour le coup, sont aussi très liés à tout cet univers du conte. Vous dirigez également la maison d'édition Argemios, que vous avez créée, et pour laquelle vous dites que folklore, mythologie et poésie sont mises à l'honneur. Il faudra nous en dire deux mots. C'est d'ailleurs dans cette maison d'édition que vous... Ça me fait drôle de te vous voyez, mais j'ai du mal. Non, je fais sérieux. Vous y publiez d'ailleurs en 2008 « Les débris du chaudron » où vous mêlez adroitement mythologie, croyances populaires, magie, petit peuple, légende arthurienne, assez plutôt bien mise en scène pour le coup. Cette même année, chez Ozu, Légende créature fantastique, illustrée par Cristal, qui est sur le salon, Pamplini, que je n'ai pas vu encore. Donc je viendrai le voir. Vous dites dans votre biographie que les littératures de l'imaginaire donc, vous permettent de concilier votre passion pour le folklore et la mythologie. Nathalie, d'où vous vient cette passion?
Ça fait partie de moi. Je ne me rappelle pas un instant de ma vie où je n'ai pas été dedans. Où j'ai pas eu conscience de l'existence de tout ce qu'il y a autour de nous et qu'on voit pas forcément avec les yeux. J'ai vécu des choses dont je vais pas vous donner les détails parce que s'il y a un psy dans la salle, j'ai peur. J'y crois. Donc quand j'en parle, c'est en toute sincérité et avec beaucoup d'amour. Et puis, je sais pas comment dire, c'est... Il n'y a pas que les contes occidentaux qui m'intéressent. J'ai toujours adoré lire tout ce qui était un conte. Et donc, j'ai dévoré les contes et légendes chez Nathan, tous les ouvrages chez Grund, enfin, les contes du monde. Donc au départ, j'ai eu des versions qui étaient pour les enfants, qui étaient souvent édulcorées, qui étaient souvent christianisées aussi. Et très vite, j'ai voulu aller voir plus loin. Et puis, je me suis intéressée à la mythologie comparée. Donc, j'ai lu des essais, qui sont souvent d'ailleurs maintenant mes sources d'inspiration dans mon écriture. Et puis, il y a des auteurs de contes, parce que quand on dit contes, on va penser à Grimm, à Perrault, éventuellement à Andersen. Mais moi, il y en a un que j'adore et qui est très peu cité, c'est Hoffmann. Et ça, c'est des contes qui ne sont pas pour les enfants, qui sont durs, qui sont sombres et dont je suis tombée amoureuse quand j'étais adolescente. Donc j'ai... Très vite, je suis sortie en fait, de la vision Disney des contes que je connais, surtout à mon époque. Je n'étais pas toute jeune. C'était pas comme aujourd'hui où on avait accès facilement aux dessins animés de Disney. C'était un dessin animé qui sortait une fois par an, période de Noël, et puis si on le ratait, c'était... Voilà, on n'avait pas d'autres dessins animés dans la vie. Je me rappelle que quand j'avais 4 ans, il y en a deux qui m'ont marqué, c'est le livre de la jungle. Donc je pense que, après, évidemment, je suis allée lire les textes de Kipling, je me suis intéressée, mais je voulais en savoir plus, donc j'ai lu les mythes et les contes qui se passent en Inde, enfin tout ce qui vient de là-bas. Et l'autre, c'était La Belle au bois dormant, qui m'a complètement traumatisée. J'ai fait toute mon enfance des cauchemars autour du personnage de Maléfique, sous sa forme humaine, sous sa forme de dragon, il me faisait plus peur. Donc je pense que ces peurs, ces cauchemars, j'ai eu besoin de les apprivoiser, donc l'étude plus approfondie des contes pour essayer de comprendre vraiment ce qui me touchait, ce qui m'interpellait, et qu'est-ce que ça représentait pour moi en fait, ces images. Et puis donc, finalement, ça a été au fil des années une approche peut-être plus érudite. Enfin, au cours de mes études, j'ai eu des cours d'expression écrite dans lesquels l'enseignant nous a fait travailler sur la matrice des contes de fées à partir des travaux de profs, etc. Donc j'ai eu des clés pour décrypter, j'ai eu psychanalyse des contes de fées de Bézelheim, tout ce qui m'est tombé sous la main. Mais ce qui m'a vraiment le plus aidé à comprendre, c'était les livres de mythologie comparée. Ça a été les épopées de Tumézil, ça a été les travaux de Claude Lecouteux, de Chimibago, que je m'appelle en face.
Qui écrit dans la revue.
Des ouvrages également de Jean Marcal, même si je sais qu'il y a eu des gens pour le décrier. Je trouve qu'il avait eu une démarche qui est très celte, qui est de rêver son histoire, contrairement aux Romains qui, eux, historicisaient leur vie. Donc, même si on n'a pas toujours l'exactitude historique chez Marcal, on a au moins l'état d'esprit, je trouve. Donc voilà, en fait. Ça, c'est...
Merci.
Et puis ça s'est remis dans mon écriture, en fait, très vite. Parce qu'à 7 ans, les premiers textes que j'ai écrits, c'était déjà des contes. Et sinon, juste une petite précision par rapport à ma bio. Ma première publication ne date pas de 99.
Alors, dis.
Elle date de 91, sous pseudonyme. Un roman court que Jacques Sadoul avait qualifié de conte.
Alors oui, peut-être faudrait-il aussi faire une distinction, encore une fois, sur cette appellation de conte, entre le conte populaire et l'appellation de conte à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui ne correspond évidemment pas au conte populaire. Donc on appelle conte une nouvelle, tout simplement. Hein, et ça n'a rien à voir avec le terme de conte, qui est un terme effectivement populaire. Et je pense d'ailleurs que les contes de ma mère Loi, au départ, c'est parce que ce sont des histoires courtes que le terme de conte va être donné à ces contes. Voilà, mais sinon on a les contes de Canterbury, on a les premiers textes de la littérature sont les contes de Canterbury, de Chaucer, le Décaméron donc, de Boccace, l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, ce sont trois recueils de nouvelles dont on dit qu'ils sont recueils de contes. On pourrait aussi dire pour les évangiles des Quenouilles au XVe siècle qu'on est face à un recueil de petites historiettes, tout ça. Donc, dans le domaine littéraire, le terme de conte ne signifie pas la même chose. Quand on parle des contes d'Hoffmann, par exemple, et non pas d'Haussmann, on est dans de la nouvelle, plus que dans du conte. Nous parlions, alors je vais quand même donner la parole, Nice. Hein? Donc on va voir ça, on va parler de la thématique là. Et ensuite, Donc, Nicolas, nous avons abordé là, les schémas narratifs par rapport aux personnages sur lesquels peut-être nous allons revenir après avoir fait un détour sur le mythe. Donc, il est vrai, je ne sais pas si c'est vous ou Nathalie qui a parlé du mythe au départ, mais il est vrai, moi j'avais noté aussi les contes mythologiques, oui. C'est-à-dire les contes issus des mythes, puisque la plupart de nos contes traditionnels sont des restes un peu dégénérés de mythes et de croyances, bien entendu. Donc, dans le travail qui a été fait sur cette relation conte-fantaisie, visiblement, l'influence mythologique arrive en premier. Est-ce que les auteurs s'expliquent là-dessus?
Alors,
par rapport à des archétypes, par rapport à des choses plus fortes, je pense à j'avais relevé une phrase d'Anne dans une interview que tu avais donnée à elbakin.net et en disant « J'essaie de ne pas dénaturer les mythes que j'utilise pour la bonne raison que nous avons besoin d'images communes et reconnues. » C'est-à-dire de cet inconscient, alors je parle d'archétype selon Jung, comme dirait l'autre, espèce d'inconscient collectif où il y aurait comme ça des forces. Est-ce que
alors, c'est ce qu'on ressent de répondre avec précision, c'est surtout ce qu'on ressent, c'est que les mythes, c'est rare d'avoir finalement des textes, de tomber sur des textes qui sont la reprise d'un mythe. C'est un ensemble de mythes, ce sont des mélanges qui sont créés, renouvelés. Il arrive parfois que les auteurs aient une démarche au niveau de leurs sources, qu'ils expliquent à la fin du livre, dans leur bibliographie, précisément de quoi ils se sont servis, et vous pouvez tomber sur des listes assez impressionnantes de 2-3 pages de textes divers qui sont les sources d'inspiration de l'auteur. Quand on y regarde de plus près, c'est l'objet de l'article dans ce numéro d'Anne Besson, au niveau de l'influence de l'environnement du Moyen-Âge et des histoires du Moyen-Âge sur l'écriture en fantasy. On se rend compte qu'il y a beaucoup de décalages et que l'imaginaire prend aussi l'imaginaire de l'auteur prend le relais et transforme complètement les mythes ou les légendes ou les contes qui sont à l'origine et qui sont des sources d'influence.
Mais alors, ils mettent derrière une page ou deux de références bibliographiques, mais quelles sont ces références? Est-ce que ce sont les métamorphoses de
Ovide
ou Lucien, ou alors
Arthur, la chanson de Roland, ou
ça mais on, sur des textes classiques alors, pas du remâché par.
C'est-à-dire qu'ils indiquent au lecteur que leur il y a une démarche pour indiquer au lecteur qu'il y a une documentation, mais les textes eux-mêmes sont largement inspirés. Donc, prennent une autre ampleur. D'accord. Qui est liée à l'imaginaire de l'écrivain.
Oui. Ça y est, c'est le moment.
C'est le moment.
Le grand moment, mais ils sont très gentils. Eunice, merci de nous avoir rejoints. Donc, moi, la question que je vais vous poser, là, c'est... Vous avez travaillé... Vous allez nous dire un mot, d'abord, de votre thèse, de ce travail. Et puis, dans ce chapitre que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer... vous avez travaillé sur 5 livres jeunesse, hein, sur le conte et fantaisie. Il semblait qu'il y en avait 5. Enfin bon, c'est pas grave. 4, je dois me tromper. Donc ma question, est-ce qu'on observe la même chose et comment, au niveau de ces livres jeunesse, le mythe ou le conte est transformé? Mais un petit mot sur votre travail.
D'accord. Bonjour. Donc en fait, moi je... Puis, au départ, partie des contes, parce que j'ai toujours été bercée par les contes merveilleux. J'avais un grand-père qui me racontait des contes le soir au coin du feu. Moi, je suis portugaise et donc, dans le temps, hein, quand j'étais plus jeune, on va dire, on n'avait pas l'électricité, on n'avait pas tout ça. Donc, souvent, le soir au coin du feu, ben, le grand-père me racontait des histoires. Et donc, j'ai vraiment vécu dans ce monde-là et j'ai toujours été passionnée par les contes. Et quand je suis tombée sur mon premier roman de fantasy, tout à fait par hasard, je me suis dit, je retrouve exactement les principaux éléments du conte, c'est-à-dire, en fait, j'ai pensé tout de suite au schéma narratif, au schéma quinaire de la rêverie, c'est-à-dire avec la quête initiatique du héros, Et donc à partir de là, j'ai eu envie d'essayer d'appliquer ce schéma à quatre des romans de mon corpus pour voir si on pouvait vraiment appliquer ce schéma. En fait, j'en ai conclu que ce schéma pouvait bien s'appliquer aux romans de fantasy jeunesse, hein, essentiellement, parce que c'est les romans jeunesse qui me passionnent avant tout, parce que c'est là qu'on retrouve, on retrouve plus les mêmes éléments que dans les contes merveilleux. Donc j'ai travaillé sur La quête des Willan, La quête de Del Tora, Prisonnier des Vikings et La guerre des fées. Et donc j'ai appliqué le schéma Kinner à ces quatre romans, enfin romans trilogiques, puisque même La quête de Del Tora, je crois qu'elle est découpée en huit tomes. Et donc je me suis rendu compte que c'était vraiment c'était comme une prolongation, que la fantaisie était comme une prolongation des contes merveilleux. Donc c'était la conclusion auquel je suis arrivée. Je ne sais pas ce que Marie-Charlotte, vous voulez que je dise autre chose par rapport à...
Ah non, mais moi je ne vous force à rien. Non, c'était pour avoir une petite idée de ce travail. Et puis que vous nous disiez si effectivement on retrouve aussi des influences un peu particulières, comme ça a été le cas pour le travail de Nicolas,
En fait, ce qu'on retrouve aussi pas mal dans la fantaisie, au niveau du bestiaire qu'on retrouve dans les contes, c'est-à-dire les ogres, les géants, les sorcières, les fées, bon, tout ce bestiaire, on le retrouve dans la fantaisie. Et puis, il y a aussi la magie, aussi, qui est un thème qui est important. On a aussi souvent un objet magique. Que le héros possède dans les romans de fantasy et qui apparaît aussi souvent dans les contes. Donc voilà, c'est essentiellement entre les
contes. Voilà, on se sert quand même de... Voilà, ça va m'amener à la question suivante. Non, pas tout à fait suivante, je vais la garder pour la fin, celle-là, parce qu'elle est un peu provocatrice. Nous parlions off du protocole narratif. Et en fait, je vais te laisser parler, Nicolas. En fait, ce fameux protocole narratif, il était une fois, qui évite de rentrer dans des conditions historiques ou qui amène dans des Moyen-Âge totalement merveilleux ou à des périodes non données, non datées, non localisées. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent dans la fantaisie.
Oui, alors on a un parallèle amusant avec le conte, c'est que ce « il était une fois » qui ne détermine pas le temps de l'histoire, c'est quelque chose qu'on veut retrouver dans les récits de fantaisie, puisque le temps de la fantaisie est également indéterminé et invite le lecteur à se transporter et de s'approprier l'histoire. Mais alors, on peut se demander, quand on dit « il était une fois pour un conte », on le situe dans un lieu indéterminé, mais on sait que ça va être, si on connaît les contes, on sait que ça va être une menterie, qu'on n'y croira pas. On en tire des enseignements, des leçons. Pour le roman de fantasy, il faut y croire, sinon ça n'a plus aucun intérêt. D'ailleurs, les personnes qui en jettent un regard un petit peu négatif sur ce genre littéraire, la plupart du temps, lorsque vous leur parlez, j'ai eu affaire à certains d'entre eux, même très proches, dans la revue, qui m'ont dit plusieurs fois « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est n'importe quoi », c'était l'expression. Mais comme ils n'y croyaient pas, ne serait-ce que l'espace d'un instant, ce n'était pas possible de leur faire, de leur faire avoir au moins un regard bienveillant sur ce genre littéraire. De ce côté, le conte est plus franc du collier, avec son « il était une fois » qui annonce directement la couleur. Voilà, je voulais faire ce parallèle-là, et rappeler que ces histoires ne valent que si elles sont crues, alors que même que le conte n'est pas... est une menterie, voilà.
oui, bien sûr, et se donne en tant que tel.
Moi, je fais juste une réflexion. Il était une fois, ça souligne aussi le caractère exceptionnel de l'histoire. C'est le principe même, et on retrouve dans le schéma narratif d'ailleurs ce caractère exceptionnel avec la situation initiale, l'élément perturbateur, et après toute l'initiation, en tout cas pour le conte initiatique.
Moi, je voulais juste dire aussi qu'en fantasy, donc, il y a des romans où, comme dans les contes, on démarre tout de suite dans un monde imaginaire. On ne commence pas par Il était une fois, mais on démarre dans un monde imaginaire. Et il y a certains romans où on bascule d'un monde à l'autre. C'est-à-dire que si le roman de fantasy commence à notre époque contemporaine, il faut qu'il bascule dans un monde imaginaire pour que le lecteur soit projeté dans le merveilleux, dans l'imaginaire. Sinon, s'il reste dans notre monde contemporain, ce sera plus de la fantasy, en fait, ce sera du fantastique.
Non, vous n'êtes pas d'accord?
En France, on a cette ambiguïté-là qu'on n'a pas dans les pays anglophones, de la fantasy urbaine, en fait, qui est une partie de la fantasy qui se passe dans notre monde, et où là, ce sont les créatures merveilleuses, les aventures merveilleuses qui viennent à nous. C'est ce que nous appelons le fantastique, et on estime que c'est la fantasy urbaine à partir du moment où on a certaines créatures qu'on a essayé de catégoriser, voilà, on a codifié. Alors, quand effectivement il y a des sorcières, des fées, ça devient de la fantasy urbaine si ça se passe dans notre monde. Dans les pays anglophones, la fantasy urbaine, en fait, c'est ce que... Ce que Brajeune a appelé la biblite, entre autres, c'est tout ce qui...
Les vampires, les loups-garous, qui sont vrais,
voilà,
etc.
Voilà, créatures démoniaques, etc. Donc en France, on a cette ambiguïté-là sur la fantasy urbaine fantastique, qui n'existe pas par ailleurs.
Bah, on a, de toute façon, les genres ont des frontières très poreuses, et à partir du moment où un genre, ça c'est l'histoire de la littérature depuis toujours, à partir, en tout cas, de la généricité, à partir du moment où un genre se développe, il crée des sous-genres. À partir du moment où un genre se ratatine, les sous-genres tombent et puis on se rassemble. Donc, et on a effectivement en plus des frontières qui sont tout à fait poreuses. Donc c'est vrai que ce soit le travail de Nathalie ou celui d'Anne, moi je ne sais pas si on est dans le fantastique. On aurait pu dire à un moment qu'on était dans le fantastique. Aujourd'hui, on dit on est dans la fantaisie, mais... On est vraiment entre les deux, pour le coup. On est vraiment entre les deux, ce qui en fait une littérature... Alors là, j'arrive à mes trois provocations de la fin sur lesquelles vous allez pouvoir réagir. Ce qui en fait une littérature d'adulte. Alors voilà, moi, je fais partie de ceux qui, effectivement, travaillent depuis très très longtemps sur les mythologies, le folklore, etc. Je publie là-dessus. Donc pour moi, la fantasy, c'est vraiment... Ça me fait hurler. Pas tout, mais il y a un certain nombre de livres. Je fais partie de ceux qui, enfin, pas qui hurlent, mais dont les livres tombent des mains. Sauf si, effectivement, à la Lewis Carroll, où, avec une vraie sincérité, les auteurs ont travaillé, ont repris la tradition et en ont fait autre chose. C'est-à-dire s'ils sont capables de dépasser ça pour aller vers une création artistique. Bon, ce qui n'est pas le cas de tous les auteurs qu'il m'a été donné de lire. Donc moi, j'ai trois questions que je vous pose et sur lesquelles vous pourrez vous étendre parce que je terminerai là-dessus. Ces romans dits de fantasy qui reprennent des éléments du conte, sont-elles des histoires pour enfants, pour ces nouveaux adultes qui ne veulent pas vieillir? Deuxième question, est-ce qu'on écrit ça parce qu'on veut faire un retour dans le passé, qu'on est nostalgique de sa propre enfance, ce qui revient aussi à la première question? Et troisièmement, est-ce que finalement, si on ne détourne pas vraiment la tradition pour en faire autre chose, enfin vraiment pour quand je dis détourner, c'est s'en servir comme un outil qui amène vers autre part. Est-ce que pour le coup, tout n'a pas déjà été dit depuis l'époque classique, depuis l'Antiquité, au niveau des mythes, des contes, et qu'est-ce qu'il vous reste à dire? Elles sont volontairement très provocatrices et j'espère que vous allez pouvoir répondre là-dessus.
Je pense que si tout a été dit, alors comme l'a dit, je ne sais plus quel personnage célèbre, ça a peut-être été dit, mais pas par moi, donc j'ai ma façon de le dire déjà. Mais surtout, ce qui a déjà été dit a été tellement altéré qu'il y a aussi un travail de retour en arrière, de dépoussiérage, et pour essayer de remonter.
Non, mais on a l'original. On peut toujours...
Mais non, bien sûr que non, puisqu'à la base, c'est de la tradition orale.
Ah oui, non, tu parles de tradition orale, donc personne ne sait ce que c'est aujourd'hui.
Voilà, donc on a...
Donc on peut inventer ce qu'on veut,
effectivement. Bah, on peut inventer, on peut aussi essayer de dédiaboliser et de revenir... Enfin, d'essayer de retrouver ce que pouvait être l'histoire à l'époque où elle a été construite, avec la mentalité, les intentions de la société, de la culture dans laquelle elle a commencé à se développer et à apparaître.
C'est-à-dire qu'on serait dans une tradition, en fait, qui est la tradition au Moyen-Âge des auteurs qui reprenaient les chevaliers de la table ronde, après Chrétien de Troyes, après... et qui refaisaient leurs propres histoires.
Je prends par exemple les Maminogi gallois, le Hannes Taliesin. Ça a été fixé au Moyen-Âge, et même un Moyen-Âge qui commençait à être un peu tardif, ça a été fixé par des moines chrétiens qui ne comprenaient plus la plupart des éléments du mythe, qui ont diabolisé des personnages comme Caridwen ou comme Kermionos, et qui à partir de là ont émis des jugements de valeur qui étaient les leurs sur des comportements comme par exemple l'amitié des cuisses de la reine celte qui pour eux très puritains était choquant, alors qu'en fait c'était un élément culturel. Et lorsque un personnage féminin prodigue l'amitié des cuisses à des personnages masculins, c'est pas une prostituée du tout. Et puis donc il y a tout un tas de choses comme ça. On peut réécrire comme l'a fait par exemple Marion Simon Bradley quand elle a écrit Les Dames du Lac. C'est si, elle a réécrit...
Oui, mais...
avec le point de vue de Morgane. Donc oui. Ça, c'est un point de vue que les auteurs médiévaux n'avaient pas abordé.
Ah bah, pour cause.
Donc voilà, il y a...
Non, mais il est vrai qu'au XIe siècle, même les dames, même tous les grands textes, toute la mythologie qui se fixe est forcément fixée par les moines. Ce sont les seuls à manier l'écriture, donc... Anne, je sens que tu veux intervenir là.
Oui, non, c'est amusant parce que moi, c'est ce que j'aime justement dans le mythe arthurien, c'est le XIIIe siècle, c'est-à-dire le moment où le christianisme s'empare de la matière de Bretagne et commence à ne plus savoir s'en servir. C'est-à-dire que par moment, donc le XIIIe siècle, c'est le Lancelot en prose, c'est le cycle de la Vulgate. Et par moments émerge un peu de matière de Bretagne, une confusion entre les valeurs chrétiennes, les valeurs celtes, etc. Et ça, j'adore. Et on est en plein justement dans une appropriation du mythe. Ça n'est pas évidemment le côté chrétien qui me plaît particulièrement, mais le fait que ça, tout à coup, ça fuse dans tous les sens et que les clercs ne maîtrisent plus. En plus, ils sont en pleine révolution littéraire puisqu'ils se mettent à écrire du roman, donc de prendre la matière populaire, le roman...
Et la matière de France qui arrive aussi, qui est depuis le XIIe siècle.
En langue romane, donc ils ont fini par accepter de ne plus écrire que des textes chrétiens, des textes basés sur les textes sacrés, et donc ils ne maîtrisent pas ça, et ça c'est absolument merveilleux. On est complètement dans une réutilisation justement du mythe, ou du conte. Je tiquais sur Marion de Zimmer Bradley parce que je lui pardonnerai jamais le plan à trois entre Lancelot, Guenièvre et Arthur. Jamais, ça ne passera jamais. Mais c'est vrai que c'était un...
T'as raison, Guenièvre, elle était en trop.
Et encore s'il y avait eu Galeot. Mais
désolée, c'est...
mais voilà, alors en revanche, je suis vraiment furieuse contre toi sur la nostalgie de l'enfance. Je te remercie, moi je n'ai pas vieilli.
Mais c'est une question volontairement provocatrice.
Donc il n'y a pas de nostalgie du tout de l'enfance là-dedans. Je la vis, je le porte en moi, on le porte en soi. De toute façon, l'image de l'enfance merveilleuse qu'on veut revisiter, non, on sait que c'est fini, on est passé de l'autre côté. Donc on porte en soi des bribes, comme on porte des bribes de voyage et d'autres aventures. Tout a été écrit, oui, mais dans toutes les formes de littérature, tout a été écrit, c'est évident. Mais je reviens à ce que je disais au début, je pense que le conte, on est pratiquement tous sensibles au conte, sans être obligatoirement dans une croyance ou pas. Et c'est vrai que Nicolas a complètement raison pour la fantaisie, il faut cette idée de croyance. Pour le conte, non, parce que c'est l'origine de notre perception littéraire. C'est vraiment la base. On nous a raconté des histoires quand on était petit, et donc des contes. Après, peu importe que ce soit des contes où le petit chaperon rouge s'en sort grâce au bûcheron, ou il meurt, ou voilà, si on est dans Charles Perrault, dans une autre tradition, dans du Walt Disney, du Curé, on nous a raconté des choses. Voilà. Donc on est vraiment à l'origine de toute littérature chez tout le monde. C'est même amusant parce que sur le principe de la tradition orale, quand on veut faire lire des textes un petit peu difficiles à des élèves, il suffit de leur lire et on s'aperçoit, on est face à des grandes AD de 4e, de 3e, je pouvais voir des enseignants ici, donc vous devez le savoir, tout d'un coup on leur lit un passage de Flaubert et on retrouve le même lien qu'avec le conte, ce lien affectif qui est très fort et cette parole qui passe avec un intervenant, avec un intermédiaire en fait. Donc voilà, conclusion.
Conclusion, parce qu'il va falloir qu'on s'arrête. Je vais vous demander à chacun d'entre vous quels sont vos projets actuels. Sur quoi tu travailles, Nathalie, en ce moment? Tu peux le dire?
Oui, je suis en train d'écrire un texte pour la Sorbonne, qui est une réécriture d'un mythe grec.
Tu ne peux pas dire lequel pour l'instant?
Si, Apollon et Marsyas.
Nicolas, le prochain numéro?
Alors, le thème du prochain numéro, c'est le diable. Et puis voilà, donc pour les 3 prochains mois.
Voilà, après, c'est pour les bibliothécaires, si vous n'êtes pas abonné à la Grande Oreille, franchement, qui n'est pas abonné? Eunice, un roman en préparation, oui. Qui sort en 2012.
Normalement, il doit sortir. Et dans le micro. Il doit sortir au printemps 2012. C'est un roman de fantasy jeunesse qui a pour titre Le Sceptre Maudit. Donc j'ai commencé à écrire pas très jeune, hein, quand j'ai pas fait comme tout le monde, la plupart du temps de ceux qui écrivent commencent très jeune. Moi j'ai commencé un peu plus tard, donc j'ai voulu aussi me lancer à mon tour. Mais je me rends compte que c'est pas très évident, il faut avoir beaucoup d'imagination, mais c'est pas que l'imagination, il faut savoir le retranscrire sur papier et c'est pas toujours évident. Donc, On verra ce que les lecteurs en penseront quand il sortira.
Anne, qu'est-ce qui se prépare?
A priori, un roman jeunesse, un hommage à Retour vers le futur, fin des années 80, donc plutôt science-fiction, et puis un thriller fantastique pour jeunes adultes, pour adolescents. Avec toujours des fantômes sur le même principe que
Narcogénèse.
Je voudrais ajouter un mot, je voudrais remercier Anne Larue, l'auteur de l'excellent Vaisselle du Cadix, pour avoir dormi la moitié de la table ronde. Merci Anne. Voilà, c'était mon message personnel.
Je peux dire juste une dernière petite chose, parce que je voulais, puisque toutes les personnes qui sont là, je pense, s'intéressent aux contes, aux légendes, aux mythes, au folklore, c'est la ligne éditoriale des éditions Argemios, donc on a 8 titres actuellement dans cette collection-là, sur ces thèmes-là. N'hésitez pas à passer jeter un œil sur le stand.
Voilà, merci à vous. Je crois qu'il y a une autre table ronde qui suit, donc nous allons leur laisser la place. Et donc cette année, vous le savez, le salon en principe est complet, ce qui n'était pas le cas l'an dernier, pour que justement les bibliothécaires puissent avoir une vision presque elle-même aussi complète, parce qu'il manque assez peu d'éditeurs de l'imaginaire, de cette production. Merci à vous.